It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
€10 offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour parler un petit peu du Borussia Dortmund qui, sans trop faire de bruit, fait un 2024 assez intéressant. Une seule défaite sur les 16 dernières rencontres pour Dortmund. 5 victoires d'affilée qui vient de faire un mois de mars parfait. Ils ont regrimpé dans le top 4. Dortmund est là avec 53 points. C'est mine de rien 3 de plus que Leipzig qui a fait match nul ce week-end. Et ils sont qu'à 4 petites longueurs de Stuttgart qui est 3ème. Stuttgart que Dortmund, oui, joue ce week-end. Bien sûr, le Borussia Dortmund s'est aussi qualifié pour les quarts de finale de Champions League où ils vont jouer l'Atlético semaine prochaine. Une qualif obtenue en terminant à la première place du groupe de la mort de cette Champions. Ils sont placés dans la bonne partie de tableau, entre guillemets, donc on sait que s'ils passent l'Atleti, ce qui va pas être facile du tout, mais s'ils passent l'Atleti, c'est Barça ou Paris Saint-Germain, c'est quand même mieux que Real, City, Arsenal, Bayern en face. Quoique Bayern, ils ont battu le Bayern Munich à l'Allianz Arena pour la première fois depuis une décennie. C'était ce week-end, j'ai revu le match hier matin. Est-ce qu'ils peuvent enchaîner une 6ème victoire consécutive, confirmer leur qualif pour la Champions de l'année prochaine contre Stuttgart ce week-end, le gros match dont on a discuté. Stuttgart qui les a battus 2 fois cette saison, en Bundesliga à l'aller et en Pokal aussi fin 2023. Donc ça c'est très très gros match et derrière... Atlético Madrid, aller-retour, mais aussi Gladbach, déplacement à Gladbach, réception de Leverkusen. Je crois que c'est le match où Leverkusen peut gagner le titre en plus, au Signal Iduna Park. Et après, c'est Leipzig. Énorme, énorme mois d'avril qui arrive pour Dortmund. Ça en fait une équipe extrêmement intéressante. Et en plus, elle avance vraiment, vraiment masquée. Si on regarde du côté des bookmakers, les favoris pour remporter la Champions 2023-2024, ils sont tellement loin derrière. Paris à 9, Barça à 12, Atlético à 13, Dortmund est 8ème à 30. Une cote à 30 pour remporter la Ligue des Champions cette saison. Ce qui est bon, pas forcément anormal ou illogique. C'est une équipe qui n'a pas atteint les derniers carrés de la compétition depuis plus d'une décennie aussi, depuis 2013. Bon, l'année où ils sont allés en finale, époque Jürgen Klopp, etc. Mais ça commence un petit peu à remonter. Donc voilà, c'est un petit peu ma question d'aujourd'hui. À quel point est-ce que ce Dortmund qu'on voit en ce moment, c'est du vrai? Est-ce qu'ils peuvent faire une petite folie? Ça m'a intéressé parce que j'aime bien me pencher sur les équipes que je maîtrise un petit peu moins. Dortmund, ça faisait un moment que j'avais besoin d'actualiser les connaissances. Donc cette vidéo, c'était l'occasion de le faire. En ce moment-là, on est parti sur... il y a avril, mai, juin, juillet avec l'Euro. C'est 3 mois et demi, 4 mois. Où franchement, les gars, je pense que c'est une vidéo par jour minimum qui arrive. Je peux pas dire que 100% des jours, absolument, il y aura une vidéo. Mais 95% facile et certains jours à 2 vidéos. Donc ouais, un petit trimestre qui arrive là à au moins 100 vidéos. Et du coup, ça nous donne l'occasion de nous pencher sur des trucs qu'on fait un petit peu moins d'habitude. Une vidéo entière sur Dortmund, c'est pas quelque chose que j'aurais fait il y a quelques semaines. Là, c'est l'occasion et j'étais très très content de pouvoir réviser un peu mon Borussia Dortmund. Donc ouais, comme d'habitude, on dégaine Tactical Board et on va passer ligne par ligne. Si ce concept vous intéresse, vous voulez voir d'autres équipes abordées, peut-être un petit Atlético Madrid bientôt ou d'autres. Tout est possible, tout est envisageable. On va passer ligne par ligne et on va commencer secteur défensif où ça se passe très bien pour Dortmund en ce moment. Gregor Kobel dans les buts, à 26 ans, déjà un des meilleurs gardiens d'Europe, je pense. Je ne vais pas dire top 3, mais facile, facile, top 10. Le petit problème, il a raté 6 des 9 derniers matchs, des petits pépins physiques, petits trucs intestinaux, maladies, etc. Mais son remplaçant, le vétéran Alexander Meyer, 32 ans, a vraiment rendu de très bons services. Il a été bon contre le Bayern, il a été très bon contre Francfort aussi l'autre jour. Franchement, Kobel, Meyer, ça pourrait être pour moi un gardien de Bundesliga. Titulaire dans un autre club, même un club de première partie de tableau, assez facilement. On commence plutôt pas mal sur ce poste de gardien. Et après, la ligne de 4 de Dortmund, j'ignorais à quel point ils faisaient une aussi bonne saison, mais en me repenchant sur les matchs, sur les avis des supporters, en regardant aussi sa masterclass absolue l'autre jour contre le Bayern, où il a crevé l'écran, Mats Hummels, c'est très, très costaud. À 35 ans, 6 dégagements, 5 interceptions, 2 tacles réussis, 2 duels aériens remportés, mais honnêtement, les stats sont vraiment pas importantes. Juste visuellement, il était énorme, il a sauvé au moins un but, et on peut dire 2, facile dans cette rencontre. un nombre d'interceptions, des tacles de couverture en pleine surface, des interventions absolument décisives. Ouais, excellent match de Mats Hummels, et il est à ce niveau de performance depuis quelques temps maintenant. Sa saison dans l'ensemble est très bonne, mais là j'ai l'impression que depuis 2-3 mois, c'est encore un autre niveau. Buteur l'autre jour contre Francfort, si je ne m'abuse. Et ouais, j'ai lu que Mats Hummels, à 35 ans, vit non seulement ses derniers moments à Dortmund, mais peut-être, il est en fin de contrat 2024, peut-être c'est les derniers moments de sa carrière tout court. C'est pas encore 100% finalisé, peut-être qu'il pourrait y avoir une prolongation, je sais que tout le board pousse pour ça, les supporters poussent pour ça, mais lui à 35 ans, il dit depuis un moment qu'il veut prendre sa retraite au top niveau, il veut pas trop décliner, il parle souvent de son corps, est-ce que son corps peut encore faire des saisons, qu'il veut passer plus de temps avec sa famille, etc. Il a pas été appelé par Nagelsmann sur la dernière liste de l'Allemagne. L'Euro serait un truc énorme pour lui. L'Euro en Allemagne, à la maison, serait quelque chose d'hyper important pour un des joueurs quand même majeurs de la Mannschaft depuis une décennie. Un beau parcours en Champions avec Dortmund, pour lui, ça me ferait kiffer. C'est un super, super joueur. Pour un autre aussi, pour un autre dont on va discuter dans quelques minutes. Mais ouais, voilà, légende. Je crois que c'est le deuxième joueur, c'est sa deuxième joueur de l'histoire de Dortmund avec le plus de matchs sous la couleur des jaunes et noirs, quasiment 500, bientôt 500. S'il n'avait pas fait ses trois petites saisons au Bayern, il serait sans doute le numéro 1 devant Michael Zorc. Donc ouais, énorme Mats Hummels, c'est le premier nom qu'on coche sur la feuille sans trop de problèmes. Maintenant, c'est vrai que c'est un profil spécial, pas très rapide, même plutôt lent. En transition défensive, ça peut être un vrai vrai souci. Et du coup, je dirais que la manière dont est construit Dortmund actuellement, ce Dortmund de Terzic, c'est une structure qui est aussi bâtie en fonction de Mats Hummels, qui est un super défenseur de surface, mais t'as pas envie d'être en train de presser à la médiane avec lui et l'espace à courir dans le dos. Donc du coup, j'ai l'impression que Dortmund, la plupart du temps, est dans un bloc médian agressif, disons que c'est la forme la plus haute de ce bloc, et régulièrement assez bas pour ensuite aller faire mal en transition, pour avoir moins d'espace à couvrir dans le dos du Metz et pour ensuite faire mal dans les grands espaces où t'as les flèches Sancho par exemple, Daniel Malen, mais même un gars qui vient d'être pris, Ian Madsen. Et on va parler de Malen et Sancho tout à l'heure, mais sur la ligne de 4, Madsen, peut-être le deuxième joueur le plus important. Bien sûr, il a été pris au mercato hivernal à Chelsea. Est-ce que ça peut se concrétiser en un transfert définitif? Pour l'instant, c'est juste un prêt. Il apporte énormément de vitesse sur son flanc. Il y a un peu de fragilité défensive, c'est peut-être la zone où le flanc ou Dortmund est un petit peu menacé de temps en temps, ce côté gauche, mais c'est compensé par tout ce qu'il apporte dans son couloir, les dédoublements, les débordements et juste la projection de Madsen, on l'a vu encore une fois l'autre jour contre le Bayern, c'est quelque chose que Dortmund n'avait pas dans son effectif avec un Ben Sebaini par exemple, qui est beaucoup plus défensif mais qui apporte beaucoup moins sur la capacité de projection notamment. Donc c'est assez complémentaire je dirais de Mats Hummels, il y a de la vitesse, potentiellement parfois pour courir la profondeur, mais surtout pour partir depuis des positions basses, Ian Madsen c'est vraiment pas mal, c'est une très très bonne prise du mercato hivernal, et il vient optimiser une ligne de 4 où on a Schlotterbeck en tant que défenseur central le second, et Ryerson, maintenant la plupart du temps Dortmund est soit en 4-2-3-1, soit en 4-3-3, mais ligne de 4, Etchan est soit le 6, soit le deuxième milieu défensif aux côtés d'un Marcel Sabitzer par exemple. Quand tu peux avoir Schlotterbeck et Hummels, les deux en général sont alignés. Schlotterbeck pas mal aussi. Son arrivée, je me souviens, tout début, c'était un joueur qui m'intéressait beaucoup, je crois qu'il y a eu des petits couacs, mais depuis, la qualité de pied qu'on connaissait et beaucoup plus de vitesse pour couvrir la profondeur, ce qui complète bien Mats Hummels, mais l'expérience d'Hummels l'aide énormément aussi sur le positionnement, sur la protection de surface. Franchement, ça fait une bonne paire. Et du coup, je comprends d'autant plus les supporters de Dortmund qui voudraient qu'Hummels reste, parce que honnêtement, il aide énormément Schlotterbeck. Et ça fait une belle paire. Et on n'a pas parlé encore de Ryerson, qui est un défenseur droit assez complet. Pas brillant, je pense pas top 8, top 9 en Europe forcément, mais pas énormément de faiblesse non plus. Il peut apporter des choses en projection, c'est plutôt un défenseur pertinent, je l'ai trouvé très bon contre le Bayern. En ce moment, il est vraiment sur une bonne passe. Et ouais, Ryerson, Madsen sur les côtés, Schlotterbeck, Hummels, et tu peux avoir Kobel ou meilleur en ce moment dans les buts, ça fait vraiment un bon secteur défensif. On a vu tout à l'heure que Dortmund était à l'équipe la moins cotée parmi les 8 qui restaient en Champions, mais ce bloc de 5 là, je pense pas du tout que ce soit le pire à se retrouver là à ce stade de la compétition, en plus avec les blessés de part et d'autre, ça vraiment, c'est pas mal, je pense que ça fait partie des forces de ce Dortmund actuel. Niklas Süle, c'est pas mal, c'est correct, c'est rien de fou, je crois qu'il y a eu quelques erreurs, mais c'est pas trop trop mal, quand tout le monde est opérationnel, pour l'instant dans la hiérarchie, c'est le troisième central. Ce qui du coup, je sais pas à quel point c'est un bon retour sur investissement pour un gars qui, comme on le voit ici, est le deuxième salaire le plus cher de l'effectif. 10 millions par an, ce qui est à peine moins finalement que Hummels et Schlotterbeck combinés, à 7 et 4,7 respectivement. Le tandem devant, c'est pas trop mal non plus. Marcel Zabitzer, discrètement en train de très bien jouer en ce moment. Alors, il a raté les derniers matchs, notamment contre le Bayern et celui d'avant, il me semble, contre Francfort, à cause d'une suspension, carton rouge pris contre le Werder. Mais par exemple, il a été très important dans la double confrontation contre le PSV Eindhoven. Et ouais, c'est un gars, bien sûr, était immense à Leipzig. On l'a un petit peu perdu de vue, époque Bayern, Manchester United. Mais là, ça se passe pas trop mal. Et avec Chan, ils font une paire de milieux de terrain assez complémentaires. Chan, qui était le capitaine sélectionné par Terzic, un petit peu polémique. Ça avait fait un petit peu polémique en début de saison. Mais il apporte de l'expérience, de la solidité. Avec toutefois, un petit peu comme dans la veine de ce qu'on disait avec Mats Hummels, un déficit de vitesse qui fait que t'as vraiment, vraiment pas envie de te retrouver défendre 50 mètres d'espace dans le dos de Emre Can ou Mats Hummels. Donc ça, c'est le problème, entre guillemets. J'ai l'impression en ce moment, Terzic solutionne en étant positionné assez bas, en ayant, comme contre le Bayern, un bloc qui est positionné assez bas, parce que désormais, t'as la vitesse de Madsen pour exploser en transition, de Sancho et de Malen. Peut-être deux des joueurs les plus intéressants de Dortmund en ce moment. Bon, Sancho, on en avait parlé dans la liste des joueurs à suivre en 2024. Est-ce que ça allait être un transfert, le retour prêté donc par Manchester United? Est-ce que ça allait être le retour qui allait permettre de ressusciter sa carrière? Honnêtement, ça se passe plutôt pas mal pour Sancho. Il peut être le facteur X de cette équipe. Il a marqué des buts très très importants sur les dernières rencontres. Contre le Werder Bremen, au bout d'un rush magnifique dont on avait discuté sur la chaîne pour un de ses tout tout premiers matchs. Contre le PSV Eindhoven, au match retour, cette frappe extérieure de surface décisive. Bon, sur le papier, avec la qualif en quart, il a déjà quasiment rentabilisé le salaire que lui verse Dortmund. Il peut jouer aile gauche, il peut jouer aile droite. Ça permute avec Daniel Malen, le meilleur offensif de Dortmund en 2024, sans aucune contestation. 7 buts sur les 3 derniers mois de compétition, dont le premier à l'aller et celui à l'aller contre le PSV Eindhoven, extrêmement, extrêmement important. Il apporte ce côté hyper direct dont on discutait, super vertical, très très énergique, athlétique. Avec Malen, avec Sancho, avec Yann Madsen, il y a vraiment cette possibilité d'aller faire mal depuis des positions basses qui rend cette équipe tactiquement pertinente et je pense capable de gêner plusieurs plans de jeu. Voilà, pour l'instant, ça ressemble un petit peu à ça. Un autre élément qui est assez important dans cette optique de percer, trancher très très vite vers l'avant, c'est un peu contre-intuitif, mais de ce que j'ai vu, pour moi, c'est Niklas Füllkrug. Alors ouais, c'est cet attaquant assez atypique ou classique, un peu plus traditionnel, le grand gaillard, tour de contrôle, mais finalement, sur du jeu en transition, ça fait de lui une plateforme de construction haute sur laquelle les autres offensives de Dortmund peuvent s'appuyer pour du jeu en déviation dans un registre dans lequel il excelle. Ça peut être via du jeu court, du petit jeu en remise, comme on a discuté, mais aussi, bon, il a une courroie de verticalité pour quelque chose d'assez clair, évident, le jeu long, tu peux allonger, sauter le milieu de terrain. Un entrejeu d'ailleurs dans lequel Dortmund n'est pas extrêmement, extrêmement dominant. Que ce soit avec Zabitzer, Chan, aussi avec Félix Nmecha, un joueur que pourtant j'aime bien sur le papier, je pense qu'il faisait partie de mes joueurs à suivre en début de saison. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas hyper, hyper convaincant. Contre le Bayern, j'ai trouvé que c'était un des rares à avoir fait un mauvais match. Ralentir un petit peu le jeu. Dortmund ne réussit pas à imprimer énormément de contrôle sur ses matchs parce qu'il n'y a pas vraiment de gars dans cette zone qui te permet de redoubler de passes et d'avoir une domination technique très, très poussée. Donc il y a besoin d'être extrêmement vertical. C'est là que Füllkrug est utile. Peut-être aussi que le problème vient du fait que Julian Brandt, aussi un joueur que j'adore sur le papier, il y a, je pense, 2-3 saisons, on parlait tellement de Julian Brandt sur la chaîne, c'était juste un délice. En ce moment, il vit une passe vraiment difficile. C'est un petit point faible actuellement de Dortmund, j'ai l'impression. Bon, aussi, du coup, une petite marge de progression. Si Brandt revient à son meilleur niveau sur les 3 derniers mois de la saison, Dortmund a peut-être une vitesse supplémentaire à aller chercher sur sa proposition collective et juste sur son projet de jeu. Parce qu'il est capable d'être aussi, lui, cette courroie de verticalité avec du jeu fin entre les lignes, accélérer le jeu sur les moments de transition. J'aime bien Julian Brandt sur le papier. En ce moment, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, les gars en jaune, c'est à peu près à ça que ressemble le 11. Titulaire, celui que j'imagine peut-être contre l'Atleti. Ça peut être quelque chose de différent. Parfois, on a Chan en 6, Zabitzer, et peut-être à la place d'un Julian Brandt. Parfois, c'est du Marco Reus, mais pas très souvent quand même. Reus joue pas trop, et lui, pour le coup, est aussi en fin de contrat comme Mats Hummels cet été. Lui, par contre, il n'y a pas trop de signes de prolongation. Et il a dit, texto, qu'il jouerait nulle part ailleurs en Allemagne. Peut-être quelque chose à faire en MLS, mais j'ai pas l'impression que les propositions affluent. Donc, on se dirige peut-être vers un été, retraite définitive d'Hummels et de Marco Reus. Ce qui est un peu triste. Et aussi quelque chose, du coup, qui me donne envie de voir Dortmund faire peut-être encore une plus belle campagne de Champions. Si Royce, Hummels allaient un petit peu plus loin, bon, ce serait beau pour eux, ça rendrait l'adieu sympa. Pour l'instant, Royce se satisfait de quelques minutes par-ci par-là, même s'il a marqué l'autre jour contre le PSV Eindhoven, le dernier but du match, un petit peu anecdotique pour la qualif. Bon, sur le papier, le rêve pour moi, ce serait de voir Marco Royce marquer un but important dans ce quart-là contre l'Atleti. Karim David Adeyemi, ça c'est un cas intéressant. Acheté 30 millions d'euros il y a quasiment 2 ans, là, Mercato d'été 2022. Bon, ça a été un peu une déception pour l'instant, mais depuis qu'il est revenu de sa blessure ligamentaire là, de décembre, janvier, février, sur les 4 derniers matchs de Bundesliga, il a 3 buts. Il a marqué l'autre jour contre le Bayern, 2 buts en phase de groupe de Champions aussi, contre Paris et Milan si je me souviens bien. Ouais, si on considère que c'est du 4-3-3 avec Füllkrug, Malen, Sancho, les 3 titulaires pour l'instant, Adeyemi je dirais c'est le 4e offensif, et en ce moment, comme Malen a raté quelques matchs, Adeyemi plutôt bien rendu service. Il y en a un que j'aime bien, parfois j'aimerais plus le voir, c'est Jamie Bynoe-Gittens, l'anglais, bon très jeune pour l'instant, c'est vrai, assez inconstant, tendre. Peut-être avec l'arrivée de Sancho, il a perdu un peu de jeu et de temps de jeu dans la rotation. Peut-être Terzic limite un petit peu sa progression. Sébastien Haller, bon malheureusement, ça a jamais trop marché pour lui. Fin de saison dernière, ce dernier match de Bundesliga avec pas mal d'occasions ratées, mais voilà, il y a aussi eu un cancer dans le lot. Se remettre de ça, ça a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Sébastien Haller, j'ai l'impression qu'il pourrait partir aussi cet été de ce que je lis. Ce serait pas non plus la plus grosse perte pour le Borussia Dortmund, parce que ouais, c'est le salaire le plus élevé de l'effectif aussi, 11 millions. Si cet été, Haller, Royce et Hummels partent, c'est 25 millions de salaire annuel, une partie significative de la masse salariale totale du Borussia Dortmund, donc peut-être de quoi reconstruire. On n'a pas parlé de Sally Özcan aussi, on aurait pu. C'est un joueur utile de la rotation. Moukoko, pas beaucoup de temps de jeu en ce moment. Est-ce qu'il sera vendu ou gardé avec plus d'opportunités saison prochaine? Un peu comme Joe Reyna aussi, j'ai l'impression. Moi, j'aime bien Julien Duranville, que 17 ans, assez prometteur. Et j'ai vu aussi qu'au milieu de terrain, sur un rôle un petit peu box-to-box, milieu avancé, j'ai vu qu'ils avaient signé un contrat professionnel au très jeune. Alors, son prénom, Kiel Vatien. Mais bon, ça, c'est pas pour tout de suite. C'est dans quelques années. Donc, ouais, franchement, ce 11-là, tel qu'on le voit ici, ça fait une équipe assez intéressante et surtout qui tactiquement a l'air d'avoir trouvé un petit peu son idée, comme on dit avec le fait d'être bas et de procéder avec beaucoup de vitesse et de percussion sur les flancs. Ce plan de jeu, Füllkrug en déviation, ça me plaît bien, je vois des choses intéressantes à Dortmund. Là où je vais nuancer pas mal, c'est sur la question défensive. On a dit que la ligne de 4, ça marche pas trop mal et récemment, Dortmund n'encaisse pas beaucoup de buts. Sur tous les matchs, que ce soit Eintracht un peu, PSV Eindhoven, franchement, la grosse occasion de Luke de Jong à la fin, et surtout le Bayern ce week-end, je trouve que Dortmund s'en sort bien de concéder aussi peu de buts en ce moment. J'ai pas trouvé par exemple ce week-end un excellent Dortmund contre le Bayern. J'ai vu un bon Dortmund, magnifié par une excellente performance individuelle de Mats Hummels. Bayern en face, honnêtement, c'était vraiment catastrophique. Donc voilà, c'est ma petite vidéo. Attention à Dortmund, il y a quelque chose à surveiller, on va garder un œil sur eux. Aussi parce que pour moi, dans cet affrontement contre l'Atleti, l'Atlético Madrid est pas, je dirais, plus de 60% favori. C'est max du 60-40 et peut-être 55-45, un truc comme ça. C'est serré, ils sont dans la bonne partie de tableau, entre guillemets. Il y a un monde, c'est pas le plus probable, voilà, ils sont le dernier au classement des bookmakers, pas pour rien, mais il y a un monde où Dortmund va en finale de Champions. Ce serait pas le truc le plus fou qui arrivait en foot de la dernière décennie. Donc pour moi, ça méritait une petite vidéo, se pencher vite fait sur eux, sur la manière dont ils jouent, tout en étant quand même, je trouve, relativement réaliste, et on va pas s'enflammer non plus juste parce que c'est aller battre le Bayern à l'Allianz Arena. Mais gardons un œil dessus. Contre l'Atleti, il y a aussi un truc important, le match retour, mardi 16 avril, est au Signal Iduna Park. Ça, encore plus avec la disparition de la règle des buts à l'extérieur, c'est une donne très très importante. Peut-être que ça nous fait passer du 60-40 que j'imaginais initialement au moment du tirage, plus la bonne passe actuelle, 5 victoires consécutives. Peut-être qu'on va un petit peu plus vers 55-45. Et peut-être que maintenant, il nous faut une vidéo sur l'Atlético Madrid. Les amis, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours autant plaisir de recevoir votre soutien et votre force. Et on se retrouve très très vite pour la prochaine, sans vidéo sur les 3 mois et demi qui arrivent. C'est parti. Prenez soin de vous les potes et à bientôt. Bisous.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.